vraiment à cœur de dire ceci. C'est que si Samuel est là maintenant, à côté de moi, c'est quelque part un petit miraculé, parce qu'il ne devait pas être là ce soir. Il ne devait pas pouvoir se présenter devant vous, parce que samedi soir, il a eu un lumbago qui l'a complètement bloqué, cloué sur le lit comme une plante. J'avais même eu de la peine à le mettre dans le lit.
Et en général, ça dure au moins une semaine.
Plus que ça. Si la dernière fois, 15 jours.
Et là, le Seigneur, en deux jours, il a réglé le problème.
Nous avons prié à plusieurs reprises, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ce matin encore, nous avons dû le porter pour le descendre du premier étage. Et nous avons dû le faire monter avec toute la force que deux d'entre nous avait pour le mettre dans la voiture. Et il ne pouvait pas. On se demandait comment il allait descendre. Et dans la voiture, le Seigneur l'a touché. Amen. Nous avons eu une réunion de louange dans la voiture pendant 3h30. Pour venir ici.
On ne perd pas notre temps.
Ah non, jamais pendant nos voyages, en voiture. Et pendant ce temps-là, le Seigneur lui a mis à cœur de venir, de faire un pas de foi et de venir quand même comme il pourrait. Il ne savait pas encore comment il allait pouvoir le faire. Et puis, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance, une parole prophétique. Alors qu'il lui parlait de venir quand même, moi j'ai dit de la part du Seigneur, mon serviteur va avec la force que je te donne. Et à chaque pas que tu feras, je te donnerai un peu plus de force.
C'est ce
qu'il a fait. C'était à moi de faire la réunion, donc. Bon, j'étais prête à la faire, mais le Seigneur a son plan. C'est lui qui... Il m'a dit aussi, je vais me glorifier ce soir.
Amen. Et ne l'oublions pas. Quand il y a de grands combats, il y a aussi de grandes victoires.
Ah oui, ah oui.
Nous l'avons vu dans notre ministère.
Oh oui, bien des fois.
Et c'est là qu'il ne faut pas perdre les pédales.
Non, c'est ça.
Beaucoup de chrétiens perdent les pédales complètement.
Au moindre combat.
Le moindre combat, il coule.
Ah oui.
Vous ne les voyez pas.
Ils sont découragés.
Et il y a toutes sortes de pensées qui se passent.
Ah oui, il ne faut jamais se laisser arrêter.
Nous avons appris après 40 années de...
Plus de 40 ans. 44 l'année prochaine.
Je
tiens les comptes. Mais oui.
Laissez-moi dire une chose. Et nous allons...
Je tiens l'historique aussi.
C'est que c'est dans les moments les plus difficiles que nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi il ne faut
jamais
se décourager en quoi que ce soit.
Ni s'arrêter.
Si nous sommes dans les mains du Seigneur,
sur le chemin du Seigneur,
il faut aller jusqu'au bout.
Oui, être prêt à donner sa vie.
Jusqu'au bout, et vous verrez que le Seigneur vous accordera sa victoire.
Et je ne peux pas me taire aussi sur ce que j'ai vécu moi l'année dernière. Cette année, c'était Samuel qui venait un pas après l'autre, ici. Et l'année dernière, nous étions à Saint-Lambert, un tout petit séminaire. Et je suis arrivée en me tenant au mur pour monter les escaliers, parce que j'avais une grippe virale terrible que j'ai attrapée par un virus ici, avec un autre virus de vertige de Ménière. Si bien c'est que j'ai eu quelque chose que je n'ai jamais eu, en fait. Ces vertiges-là, je n'ai jamais connu ça. Et là, je vous assure que j'aurais été mieux au lit, hein, ça c'est sûr. L'année dernière, il m'a fallu... Je savais que ma place était ici devant et que le Seigneur allait m'utiliser et me donner des paroles qu'il m'avait données avant. Et donc, je suis venue par la foi. Et comme j'avais en plus une extinction de voix et qu'il fallait chanter, vous vous rappelez, vous avez vu ça, hein? Vous étiez témoin, hein, là, les quelques-uns. J'étais d'une faiblesse extrême, blanche, enfin comme une bien malade. Et puis, je me suis assise par la foi. J'ai dit, Seigneur, je suis là. Et à ce moment-là, comme j'avais une extinction de voix et que je voulais garder ma voix pour dire ce que j'avais à dire, plutôt que de chanter, alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je me suis levée par la foi. Au moment où Samuel a commencé les louanges avec nos musiciens, je me suis levée, je me rappelle encore bien. Je ne pouvais pas du tout chanter, j'avais une extinction de voix. Et le Seigneur m'a dit, tu vas lire les versets au lieu de les chanter. C'est ce que j'ai fait. Puisque j'avais assez de voix pour parler, c'est ce que j'ai fait. Exactement. Et au bout de la matinée, j'étais capable, j'étais guérie. Et tout le monde, ceux qui m'ont vu arriver, ils ont vu, à la fin de la journée, j'avais plus rien du tout. Et j'ai pu tout dire, tout donner, et à la fin de la journée, je pouvais chanter. Et c'était comme si je n'avais jamais été malade. Oh. Alléluia. Cette année, c'était Samuel, chacun son tour. Il y a parfois des combats, vous savez. Bon, c'était pour donner la gloire et le remerciement à notre Seigneur qui nous voit et qui nous entend et qui sait toutes choses. Et ce soir, je pense que le Seigneur va encore agir au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse maintenant à l'écoute de sa parole.
Le Seigneur veut parler à plusieurs personnes ici. Il veut nous aider à garder la bénédiction que nous recevons. Mm-hmm. Bien souvent, Dieu nous bénit et nous n'arrivons pas à garder cette bénédiction. C'est un peu comme des renards qui viennent ravager notre vie spirituelle. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons perdre beaucoup de bénédictions à cause de ces petits renards. La Bible parle de petits renards, n'est-ce pas vrai? Dans le Cantique des Cantiques, il est dit que les petits renards ravagent les vignes. Cantique des Cantiques 2.15. Il y a là une pensée extraordinairement importante pour nous. Quand Dieu bénit, nous devons veiller à ce que des petits renards ne viennent pas s'infiltrer dans nos vies et nous empêcher d'expérimenter ce que Dieu veut nous accorder. Mais je ne serai pas trop long, juste vous donner un peu le nom de quelques petits renards. Ils sont petits, mais les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Et c'est souvent à cause de cela que nous n'arrivons pas à avancer vraiment dans notre vie spirituelle. J'en ai noté plusieurs. Je ne pourrais certainement pas tout vous donner, mais en tout cas, quelques petits renards qu'il faut vraiment attraper par le cou et les tuer. Attention aux renards qui ravagent notre vie spirituelle. C'est le titre de mon message. Attention aux renards. Et quels sont ces renards? Le premier qui fait beaucoup de dégâts, c'est l'égoïsme. L'égoïsme.
Oh oui.
Vous connaissez ce passage dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Il est dit, Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficile, des temps périlleux. Le mot grec veut dire des temps extrêmement dangereux. Car les hommes seront... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Le premier point, la première caractéristique des hommes. Les hommes seront égoïstes. Et ensuite, il est dit, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions et de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La première caractéristique, nous le voyons, c'est l'égoïsme. Et pourquoi cette caractéristique est donnée en tête? Parce que tout le reste qui suit est une conséquence de l'égoïsme. Quand on est égoïste, voilà les fruits, pas des bons fruits, mais des fruits amers qui en découlent. Quand quelqu'un est égoïste, alors il aura l'ami de l'argent, il sera ami de l'argent, il sera fanfaron, il sera hautain, il sera blasphémateur, enfin il sera tout cela. C'est donc un petit renard, cet égoïsme, qui détruit beaucoup de vies spirituelles. Et nous devons régler ce problème, sinon notre vie spirituelle sera un fiasco. Dieu nous bénit, mais nous n'arrivons pas à garder les bénédictions. Et le mot égoïste, ici, dans le texte grec, veut dire ils seront amoureux d'eux-mêmes. Amoureux d'eux-mêmes, vous vous rendez compte? Et dans ces derniers temps, c'est ce que nous voyons maintenant. C'est ce qui est enseigné dans beaucoup de livres, dans beaucoup de, parmi beaucoup de psychologues, par exemple, où on parle qu'il faut s'aimer soi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'on dit que la racine du péché, c'est de ne pas s'aimer soi-même. Vous vous rendez compte? Que la racine du péché, c'est de ne pas s'aimer soi-même. Autrement dit, si nous voulons vivre une vie épanouie, il faut s'aimer soi-même. Il faut devenir égoïste, égocentrique. Il y a même dans l'Église de tels enseignements. On nous dit que c'est quelque chose de révolutionnaire. On nous dit que si vous commencez à vous aimer vous-même, vous pourrez aimer les autres. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais il n'y a pas un troisième commandement où il faut s'aimer soi-même. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes déjà de trop. Si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes, tu n'auras pas de problème. Mais Jésus n'a jamais enseigné à ce que nous devions nous aimer. Cette vie égocentrique, c'est une vie qui ne mène nulle part. Et laissez-moi vous dire une chose, l'égoïsme, c'est l'essence même du péché.
Bien sûr, c'est ça.
Dans Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il est dit? Que nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Soulignez propre voie. Voyez-vous l'égoïste là? Il faisait ce qu'il voulait.
C'est ça.
Il faisait ce qu'il voulait. Et du temps des juges, tout le monde, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'était la période la plus tragique et douloureuse du temps d'Israël. Et aujourd'hui, on nous enseigne, et même dans des églises, à s'aimer soi-même. C'est la chose la plus tragique qui puisse arriver. Et c'est là un petit renard qui peut détruire beaucoup de vies. Il nous faut donc veiller sur ce point et détruire ce renard et cesser de tourner notre vie autour de nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta force, ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. Dieu nous demande d'abord d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et lorsque nous le faisons, alors nous pourrons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous savez, la conjugaison humaine est celle-ci. Je, tu, il. J'aime, tu aimes, il aime. Le je vient d'abord, n'est-ce pas vrai? Mais la conjugaison divine, c'est l'inverse. C'est il, tu, je. Il, tu, je. D'abord le Seigneur, ensuite ton prochain. Et quand tu as fait cela, tu es pleinement heureux. Tu n'as plus rien à penser pour toi-même. On s'oublie soi-même. J'avais lu une fois le témoignage d'une petite fille qui disait ceci à son papa. « Papa, jamais j'ai eu autant de joie dans mon cœur que le jour où j'ai réussi à t'en donner. » Le jour où elle a pu réjouir le cœur de son papa, cette petite fille a expérimenté une joie extraordinaire. Elle avait compris quelque chose, n'est-ce pas vrai? Et c'est quand nous vivons pour les autres, que nous nous abandonnons nous-mêmes, que nous cessons de tourner autour de nous-mêmes, et que nous vivons pour les autres, qu'à ce moment-là, nous commençons à vivre une vraie vie spirituelle, une vraie vie abondante, une vie que le Seigneur peut utiliser.
Amen.
Amen. Pourquoi tant de problèmes dans l'Église, puisqu'on parle de l'Église? Pourquoi tant de problèmes dans les couples? C'est que chacun d'eux sont égoïstes. Chacun vit pour soi. Quand deux sangsues se marient, qu'est-ce que ça donne? Deux sangsues se marient. Oh, moi je veux me marier parce que, voilà, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être dorloté. Et le conjoint, c'est la même chose. Le conjoint pense aussi à la même chose. Oh, moi si je veux me marier pour être dorloté, pour être... Qu'est-ce qui se passe? C'est deux sangsues qui se marient. Ils sont en train de se sucer l'un l'autre comme ça. Et à un moment donné, c'est l'échec. Et c'est la faillite totale. Ce n'est pas du tout comme cela que ça marche. Comment faire en sorte que le couple puisse tenir? Eh bien, la solution est celle-ci. C'est de rendre ton conjoint heureux. Et quand tu verras ton conjoint heureux, tu seras toi-même heureux. Mais n'utilise pas l'autre pour que l'autre essaye toujours à te donner ce que tu désires. Un égoïste, écoutez-moi bien mes amis, c'est très important, c'est un petit renard qui détruit beaucoup de vies. Un égoïste, écoutez-moi bien, un égocentrique, vous n'arriverez jamais à la satisfaire ou à le satisfaire. Plus vous donnez un égocentrique, plus il en voudra. Et moins il sera satisfait.
Eh oui.
Et nous sommes en plein dedans maintenant. Où on nous enseigne même qu'il faut s'aimer soi-même. Vous vous rendez compte? Alors que l'ordre apostolique nous dit que c'est le plus grand danger de la fin des temps. Et dans l'Église, on nous dit que c'est la plus grande bénédiction. Dites-moi, il y a quelque chose qui ne joue pas, vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et combien de chrétiens n'ont qu'une idée en tête toujours, Seigneur, bénis-moi, c'est tout. Bénis-moi, bénis-moi. Ils ne pensent qu'à eux.
C'est ça.
Mais ils ont oublié que la bénédiction divine agit de cette façon. Comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je te rendrai en bénédiction.
Amen.
Quand Dieu nous bénit, c'est toujours pour nous rendre en bénédiction aux autres.
Toujours.
Mais ce n'est jamais pour qu'on tourne autour de soi-même.
C'est ça.
Tant que tu vis pour toi-même, tu seras malheureux. Tu seras toujours malheureuse.
Oui.
Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Actes 20, 35, vous savez, le discours de Paul à Éphèse. Paul finit son discours aux anciens d'Éphèse en disant, et n'oubliez pas cette parole du Seigneur qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez ? À donner qu'à recevoir. Mais nous, on a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Certains ont une mauvaise traduction de leur Bible. Et ils sont toujours là en train de quémander. Ce sont des mendiants. Ils sont là toujours en train de solliciter quelque chose. Et une personne, un chrétien qui vit comme cela, sera toujours une personne malheureuse. Non seulement malheureuse, mais esclave des autres. Parce que vous êtes toujours en train d'attendre des autres. Vous en êtes esclave. L'égoïsme, c'est l'esclavage. Et Jésus nous libère de cet esclavage. Tuez ce petit renard qui ravage des couples, qui ravage des églises, où chacun ne pense qu'à soi. On est là obsédé par ses désirs, c'est ce qu'on veut soi-même. On ne pense qu'à soi. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de se détruire. Quand Jésus, le matin, il s'en allait pour aller parler du royaume de Dieu, est-ce que sa pensée était, en partant, qu'est-ce que je vais recevoir ou qu'est-ce que je vais donner ? C'était quoi ?
Qu'est-ce que je vais donner ?
Ah ! Mais nous, on se lève le matin, on dit, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui ? Quand on vient à l'église, qu'est-ce que je vais recevoir ?
Voilà.
On est toujours fixé sur nous-mêmes. On est... La nature humaine est essentiellement égoïste. C'est la nature même du péché. Et quand on se convertit à Jésus-Christ et qu'on abandonne le péché, cela veut dire qu'on abandonne son égoïsme. Et qu'à un moment donné, on dit au Seigneur, « Seigneur, à partir de maintenant, je ne vis plus pour moi-même. Je ne veux plus faire constamment ma petite volonté, exiger constamment des autres qu'ils me fassent ceci, qu'ils me fassent cela. Et quand ils ne font pas ce que je veux, on commence à bouder. Moi, tu ne m'aimes plus. Ah, tu ne m'as pas fait ce que je t'ai demandé. Et ceci et cela. » Et on est là toujours en train de quémander, de rouspéter. C'est un petit renard qui te détruira. Lorsque tu te sors le matin, dis tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour bénir les autres ? Alléluia ! Qu'est-ce que je peux faire pour bénir ? C'est un petit renard qui détruit beaucoup de vies. Combien nous devons, et vous devez faire attention à cela. Malheureusement, cela est enseigné dans ce monde, et aussi dans l'Église aujourd'hui. C'est la plus grande tragédie qui puisse arriver. Et on, comme cela, on détruit même l'essence même du christianisme. On ne donne pas pour recevoir avec Jésus, on reçoit pour donner. Oui. Amen. Amen. On ne donne pas pour recevoir. Encore une fois, voyez-vous, la finalité c'est nous-mêmes. Je donne, je fais du bien, mais toujours en vue de recevoir. Non, enterrez cela. On reçoit pour donner. Et chacun d'entre nous, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu. Donnez.
Amen.
Et donnez, et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Il n'est pas question d'argent ici. Beaucoup ont résumé cela à l'argent. Il n'est pas du tout question d'argent. C'est un principe spirituel. Donnez, Jésus a dit, et il vous sera donner à celui qui donne. Jésus dit, tu auras toujours à donner.
Eh oui.
Toujours tu auras à donner.
Eh oui. Toujours.
Toujours. Donnez, et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée, qui
déborde.
Vous voyez, qui déborde. C'est toujours pour les autres. Avez-vous compris cela ? Que de chrétiens égoïstes qui ne tournent qu'eux-mêmes, autour d'eux-mêmes, et ne pensent pas aux autres. Une pensée, l'égoïsme nous empêche de voir les âmes qui se perdent.
Ah oui.
Qui se perdent.
Beaucoup.
ici-bas, bien sûr, ici, mais aussi en Afrique.
Eh oui.
Combien sont complètement indifférents à cette réalité-là.
C'est ça.
Et Jésus a dit, regardez, la moisson qui est blanche. La moisson est grande, mais il y a peu
d'ouvriers.
On est là, on ne vit que dans son petit monde. Et comme Dorothée l'a dit, Dieu n'avait qu'un fils et il fut missionnaire.
Amen.
Chacun d'entre vous, vous devriez être des missionnaires.
C'est ça.
Avec la passion des âmes, le salut des âmes. Et aujourd'hui, c'est l'heure de l'Afrique.
Oui.
Le monde occidental se déchristianise, n'est-ce pas vrai?
Mmh.
Se déchristianise.
Oh.
Et il y a des continents qui sont encore ouverts, dont l'Afrique.
Amen.
C'est pourquoi nous allons là-bas.
Eh oui.
Il y a certains pays en Afrique où nous ne pouvons plus aller.
Mmh.
Les portes se ferment.
Mmh.
Et si nous n'allons pas, la moisson sera perdue. Et qui sera responsable? Vous et moi.
Mmh.
Vous et moi, nous sommes responsables. Et c'est pourquoi cet amour des âmes doit être une motivation profonde en nous. Cessons de penser à nous. Vous savez, dans Acte 1, 8, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres et disciples? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes
témoins.
Avez-vous remarqué à quoi sert le baptême dans le Saint-Esprit? À être des
témoins.
À être des
témoins.
Ne l'oubliez pas. L'Esprit de Dieu, que Dieu nous a donné, le baptême dans le Saint-Esprit, en priorité, c'est pour le salut des âmes, pour témoigner. Et nous, on est là, on a fait du baptême dans le Saint-Esprit, ou des dons spirituels, des jouets, pour passer un bon moment ensemble. Et nous avons perdu de vue le but de ces choses.
C'est ça.
Et nous le voyons lorsque nous allons en Afrique, et nous prêchons cette parole dans toute sa simplicité. Nous voyons le Seigneur confirmer cette parole par les miracles qui l'accompagnent.
Amen. Amen.
Et lorsque nous parlons avec amour aux âmes, nous sentons que l'Esprit de Dieu est là et nous donne des paroles de grâce et de vérité qui sont comme un fleuve qui coule de notre sein.
C'est vrai.
Pour bénir tous ceux qui nous écoutent. Voilà le but du baptême dans le Saint-Esprit.
Mm-hmm.
Vous serez mes
témoins.
Témoins. Ce n'est pas pour ne penser qu'à nous-mêmes. C'est pour penser aux autres, aux multitudes qui se perdent.
Mm-hmm.
Je lisais avant de venir dans Luc 15, vous savez. Luc 15. Je ne serai pas trop long maintenant, mais juste quelques pensées. En tout cas, ce premier renard, il faut vraiment le détruire. Parce que ce renard-là, c'est celui qui engendre les autres aussi, n'est-ce pas vrai? Si vous tuez celui-là, vous avez déjà réussi beaucoup de choses. Vous avez commencé à régler beaucoup de problèmes. Vous réglerez beaucoup de problèmes dans votre propre vie. Après, si vous tuez ce renard-là, l'amour de l'argent commencera à disparaître.
Aussi.
Et puis tout le reste, fanfaron et tout.
Exactement.
Parce que toutes ces caractéristiques sont les caractéristiques d'une personne qui s'aime lui-même. Amoureux de lui-même, vous vous rendez compte? Et on nous enseigne, c'est même enseigné. Luc 15, vous savez, c'est le chapitre où il y a les trois paraboles, la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils perdu. Avez-vous remarqué, et c'est extraordinaire, dans la parabole de la brebis perdue, il est dit à un moment donné au verset 7, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur que celui qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Avez-vous remarqué à quel moment il y a plus de joie au ciel qu'à n'importe quelle autre occasion lorsqu'une âme se convertit? le ciel jubile. Et remarquez ici un petit peu avant, au verset 3, déjà on peut lire, mais il leur dit cette parabole: lequel d'entre vous, si la cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a
trouvée.
Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Le mot joie ici est important. D'abord, c'est une joie personnelle. Quand on sauve une âme, quand on ramène une brebis égarée dans le troupeau, il y a une joie personnelle. Il met avec joie sur ses épaules cette brebis, une joie personnelle. Ensuite, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi. Maintenant, c'est une réjouissance dans l'église, avec nos amis.
Collective.
Une réjouissance personnelle et une réjouissance aussi collective. Et ensuite, car j'ai trouvé la brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel. Et maintenant, il y a une joie dans le ciel. Dans le ciel. Voulez-vous réjouir le ciel? La passion des âmes et l'amour des âmes doit être en nous. Cessons de penser à nous-mêmes. Si tu commences à penser aux autres, Dieu s'occupera de toi. La plupart de nos problèmes proviennent de cet égocentrisme. Beaucoup de vos problèmes disparaîtront. Vous n'aurez pas besoin de ni de psychiatre, ni de psychologue. Commence à penser à l'autre. J'avais lu une fois cette pensée de quelqu'un qui était toujours entre les mains de psychologues et de psychiatres. Et vous savez, la personne disait, vous savez à quel moment cette personne est guérie? Ça m'intéressait. À quel moment une personne qui est toujours entre les mains des psys est guérie? Et vous savez ce que j'ai lu? Quand cette personne commence à penser aux autres. Quand cette personne commence à penser aux autres. Quand on commence à penser aux autres, nos problèmes deviennent secondaires. Et en aidant les autres, on s'aide soi-même. En nous oubliant nous-mêmes, beaucoup de nos problèmes disparaissent.
Amen.
Tous ces petits bobos que l'on entretient continuellement peuvent disparaître d'un moment à l'autre.
Amen.
Si nous avons cet amour des âmes, cette passion des âmes, plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Et je termine par ce petit récit. Je vais vous donner simplement les quelques petits renards. Vous pourrez méditer à la maison. Le reste. Un deuxième renard, j'ai noté ici, le compromis. Le compromis, c'est un petit renard qui détruit aussi beaucoup de vies et d'églises. Le compromis. Avec l'erreur, avec les fausses doctrines, le compromis avec le monde et tout cela. Le compromis, rappelez-vous bien. L'église est infestée de ce petit renard. On fait du compromis avec n'importe qui, n'importe quoi. Pourquoi? Pour ne pas faire de vagues, pour être ami avec tout le monde. Et ce sont des compromis, des petits renards qui vous détruisent. Ensuite, il y a l'amertume, un autre petit renard qu'il faut détruire. L'amertume, c'est quelque chose qui aussi détruit beaucoup de personnes.
Amen.
L'amertume contre Dieu.
Oui,
parce que les choses ne vont pas comme on l'a pensé.
Oui.
Et on en veut à Dieu. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Je t'ai prié, ceci et cela, enfin toutes sortes de choses. Parce qu'on refuse de se soumettre à sa volonté. Et l'amertume, dans Hébreux 12:15, il est dit que cette amertume est contagieuse. Que si nous ne faisons pas attention, nous allons contaminer les autres. L'amertume est contagieuse. Quand quelqu'un a de l'amertume, je vous assure, c'est une personne qui influence les autres. Dans le mal, dans les mauvaises pensées, les mauvais contacts. Cette personne, quand elle parle, elle contamine les autres. C'est une vraie tragédie. Un autre petit renard, c'est le découragement. Le découragement. Ça aussi, si vous êtes découragé, c'est terrible. Le Seigneur ne peut pas utiliser une personne découragée. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a quelqu'un qui utilise bien les personnes découragées. C'est le
diable.
Le diable. Le diable, il aime bien utiliser des personnes découragées, et même des chrétiens découragés. Quand on est découragé, on commence à faire n'importe quoi, c'est pas vrai. On commence à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à aller n'importe où. On fait n'importe quoi quand on est découragé. On le regrette après, mais le mal est fait. Le mal est fait, le découragement. Si Dieu ne peut pas vous utiliser quand vous êtes découragé, il y en a un autre qui vous utilise. Et il vous donne du travail, je vous assure. Le découragement, ça c'est un petit renard. Combien d'entre nous sont toujours découragés ou on dirait que c'est une habitude qu'ils ont prise. Mais c'est quelque chose qui vous détruit, qui ravage votre vie spirituelle. Ou un autre petit renard, la paresse. Paresseux. Combien de fois Jésus a parlé de paresseux, n'est-ce pas vrai? Dans Matthieu 25, 15 par exemple. Méchant serviteur, méchant et paresseux serviteur, tu devais mettre en activité le talent, en action le talent que je t'ai donné. Et il l'appelle paresseux. Combien dans les églises? Ils vivent de paresse, ils font rien. Ils ne font rien. Et laissez-moi dire une chose. Ça se trouve dans Matthieu 25, 26, n'est-ce pas? Mais laissez-moi dire une chose. Qu'est-ce qui se passe? Là où Jésus a été le plus sévère, c'était avec celui qui n'avait qu'un talent. Et vous savez qu'un talent, je lisais un petit commentaire là, un talent, c'est quelque chose qui coûte, qui a beaucoup de valeur. Plus qu'on le pense, nous, on se dit, j'ai un talent, c'est pas grand-chose. Détrompez-vous, c'est quelque chose d'une grande valeur. Dieu ne se moque pas de vous. Il vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Mais il vous dit, paresseux. Si vous allez cacher cela, par crainte, je savais que tu es un homme dur. Ah bon? Tu savais que le Seigneur était dur? Mais il fallait justement te mettre au travail et ne pas trouver des excuses. Aucun chrétien ne devrait être paresseux. Nous devrions tous servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Tous, sans exception.
Amen.
Oui.
Amen.
Sans exception. Mm-hmm. Et vous savez, dans cette parabole, qu'est-ce qu'il est dit? À l'un, 5 talents, à l'autre
3.
2, je crois. 2 talents, et à l'autre, 1 talent. Et il est dit, à chacun selon sa
capacité.
Nous, comme ça va en descendant, vous voyez, on aurait dit, à chacun selon son incapacité, puisque ça va en diminuant. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas d'incapable. Même celui qui a un talent, il est
capable
d'utiliser ce que Dieu lui a donné. Et voilà ce qui se passe dans beaucoup de vies chrétiennes et dans beaucoup d'églises. Un jour, j'avais lu ce petit commentaire qui disait ceci. Dans toute église, il y a 3 sortes de chrétiens. Premièrement, il y a le chrétien paresseux qui ne fait rien. Ça, c'est une tragédie. Il est devenu spécialiste. Parce qu'il sait toujours comment s'en sortir. Quand on lui donne un travail, il a toujours des raisons. Un jour, dans notre petite église maison en France, il y avait une chrétienne qui savait bien jouer du violon. On lui a dit, sœur, s'il vous plaît.
Professeur de violon.
Professeur. On a dit, ce serait magnifique que vous puissiez nous aider. On n'est déjà pas nombreux, mais un petit un violon,
jouer, ça serait merveilleux avec nous.
Et vous savez ce qu'elle a répondu? J'ai pas de conviction de la part du Seigneur.
Je n'ai pas reçu d'appel.
Je n'ai pas reçu d'appel pour ça. Vous vous rendez
compte? Professeur de viol.
Je n'ai pas de conviction de la part du Seigneur. Et en plus, on mêle le Seigneur là-dedans.
Voilà.
Et on utilise le Seigneur pour ne pas obéir et pour cacher son talent. Alors que le Seigneur nous dit que nous sommes responsables de le cacher. Il ne nous justifie pas. Il nous condamnera un jour et il nous reprendra sévèrement. Écoutez-moi bien, mes chers amis. C'est beaucoup plus important et grave que vous ne le pensez. C'est un petit renard qui détruit beaucoup de vies. Le premier, je reviens à mes 3 sortes de chrétiens. Premièrement, le chrétien paresseux. Ensuite, il y a le deuxième. C'est le chrétien qui critique celui qui fait quelque chose. Ah, lui, il s'est trouvé un ministère. Il sait toujours ce que les autres devraient faire. Mais lui, il ne fait rien. Oui, au moins le Seigneur m'a montré que Vous savez, encore une fois, voyez-vous comment on met le Seigneur dans le coup pour paraître plus spirituel. Le Seigneur m'a montré que tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. C'est pas comme si, c'est pas comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis professeur, moi. Celui qui critique, celui qui fait quelque chose. La critique est aisée, mais l'art est
difficile.
Difficile. Vous connaissez ce proverbe? La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et combien de chrétiens, ils sont toujours là. Ils savent toujours ce qui ne va pas. Mais eux ne font jamais rien. Abandonnez ce ministère. Si vous pensez que c'est un ministère que vous avez de la part du Seigneur, abandonnez-le tout de suite. Celui-là, allez l'enterrer, oui. Allez l'enterrer, celui-là. Et vous savez, comme je le dis souvent, le chrétien qui a enterré ses mines. Dans une autre parabole, il est parlé de mines. Et puis que le chrétien, le gérant, là, a enterré sa mine. Vous savez, c'est pas étonnant que si vous enterrez votre mine, que vous ayez une mine d'enterrement. Beaucoup de chrétiens ont une mine d'enterrement parce qu'ils ont enterré leur mine. Tu ne peux pas être joyeux si tu n'as pas, tu ne mets pas en action au service des autres le talent que tu as reçu. La chose la plus merveilleuse dans ce monde, c'est de se sentir utile. Amen. D'être une bénédiction aux autres. Cessez de penser à vous-même. Depuis longtemps, je ne demande plus rien au Seigneur. Je ne demande jamais au Seigneur de me bénir. Jamais. Je passe mon temps à le bénir et à bénir les autres. Et quand on fait ça, la bénédiction est sur vous sans que vous la demandiez.
C'est vrai.
Parce que le Seigneur sait que s'il nous bénit, c'est toujours pour être une bénédiction aux autres.
Voilà.
Mais combien sont là égoïstement? Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Et pour certains, la bénédiction de Dieu dans leur vie est devenue une malédiction. Parce qu'ils n'ont pas utilisé cette bénédiction pour bénir les autres. Combien, ici même ou ici, peut bénir les autres d'une manière magnifique, mais vous ne le faites pas par égoïsme. Par manque de générosité. Vous avez les moyens, mais vous ne le faites pas. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Ah, toi? Ah, voilà! Ah, c'est toi encore! Ah, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, je! Ah, voyez-vous comme le jeu, il vient vite, tout de suite. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses, vous serez débarrassés. C'est un surplus.
Par
surcroît. C'est un surplus.
C'est ça.
Voilà la vie spirituelle. Cherchez premièrement.
Amen.
Alors la troisième personne, vous la voulez, hein? Qu'est-ce qu'il fait la troisième personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est celui qui fait quelque chose malgré les critiques. Vous auriez pu dire Amen là, ici, là. Ou Alléluia. Vous avez manqué une bonne occasion de dire Amen. Il fait quelque chose malgré les
critiques.
Parce que quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous serez toujours critiqué. Il y en a toujours qui seront là. Ah oui, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Moi, à ta place, j'aurais fait ceci. Qu'est-ce que tu fais à ta place? Tu fais rien du tout. En plus, tu mens. Tu es un menteur. On s'est toujours donné des bons conseils avec le nom du Seigneur en plus. Le Seigneur m'a montré que, oui, et t'as jamais montré que toi, tu devais faire quelque chose. Ah non, ils n'ont pas cette révélation. Ils ont toujours la révélation sur les autres, mais sur eux-mêmes, il n'y a rien. Ne trouvez-vous pas beaucoup de chrétiens qui ont toujours des révélations sur les autres? Parce que le Seigneur m'a montré pour toi. Et toi? Non, il n'y a rien du tout. C'est une drôle de révélation. Quand le Seigneur donne une révélation, il commence toujours par nous-mêmes. Amen.
Oh, oui.
Par nous-mêmes.
Oh, oui.
Par nous-mêmes.
Ah, oui.
Quand nous-mêmes, on est bien avec le Seigneur, alors, il peut nous utiliser et être en bénédiction. Le troisième, il travaille malgré les critiques. Voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et où on en était? Je vous en ai donné combien? Ah, pas plus.
Ah, les trois points.
Ah, les trois points, hein, les trois points. Mais combien de petits renards je vous ai donné?
Cinq.
Il y en a pour deux autres, il faut leur taper le cou à ceux-là, c'est bien. Le sixième, mon petit renard, c'est l'instabilité. Instable. Quelqu'un d'instable. Instable. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais compter sur cette personne. Jamais. C'est une personne, par exemple, qui commence beaucoup de choses, mais qui ne finit jamais. C'est comme un enfant. Un enfant, il fait beaucoup de choses. Mais dès qu'il y a des difficultés, il n'y a plus rien. Et combien de chrétiens sont dévorés par ce petit renard? Il ne finit jamais en travail. Il ne monte jamais au bout de ce qu'il commence. Ils commencent bien, mais ils finissent mal. Pourquoi, quand la difficulté arrive, le soleil commence à frapper un peu trop fort? Et puis, l'opposition commence à venir. Et ils se disent, oh là là, il faut arrêter. Non, il faut pas devenir des fanatiques. On se trouve toujours quelques petites compensations, consolations. Non, mes amis, l'instabilité. Est-ce qu'on peut vous confier une tâche? Est-ce que vous allez au bout de ce qu'on vous a confié? Ça, c'est quelque chose de bien. Est-ce qu'on peut vous confier quelque chose? Ou alors, on vous confie quelque chose et puis au bout de quelque temps, vous dilapidez tout. Vous n'arrivez jamais à un résultat. Et il y en a des multitudes de chrétiens. Et le dernier petit renard, c'est le monde, l'esprit du monde. L'esprit du monde est entré dans l'Église plus que jamais maintenant. Plus que jamais. Et pourtant, Romains 12 nous dit que « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et que vous soyez, mais que vous soyez transformés. » Comment c'est déjà ? Par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, juste encore pour que ce soit bien précis. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez métamorphosés. Ne vous conformez pas au siècle présent, à sa mentalité, à sa façon de réfléchir, de comprendre, de s'amuser. Et aujourd'hui, on nous enseigne même qu'il faut s'adapter au monde pour sauver le monde. C'est exactement le contraire de l'Évangile. Quelle tragédie! Jésus a dit que celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Attention. Tu es ami du monde, et bien tu es ennemi de Dieu. Ne l'oublions jamais, le monde. Et c'est le fameux prédicateur Tozer qui disait, un Américain, il est mort maintenant, il a dit maintenant nous avons une nouvelle génération. Et on leur fait croire qu'en acceptant Jésus, ils n'ont plus besoin d'abandonner le monde. Et on en est là aujourd'hui. Acceptez Jésus, mais le monde, vous pouvez toujours le garder. Vous pouvez toujours vous amuser et tout ça, faire un peu ce que vous voulez. Et voilà ce qu'il disait comme prophète. On a fait croire qu'on pouvait accepter Jésus sans abandonner le monde. Et cela, ce n'est pas le véritable évangile. Ça, c'est un autre évangile. Veillons, mes chers amis. Et je vais vous raconter une dernière petite histoire pour terminer. En parlant pour nous guérir de cet égoïsme et nous montrer que nous avons une responsabilité, et un jour Dieu nous récompensera. En pensant au salut des âmes, nous partons en Afrique. Nous allons retourner régulièrement en Afrique une fois par an. Nous avons besoin de partenaires plus que jamais. Vous avez vu la somme, 36 000 dollars. Écoutez-moi bien. 34 000. Et encore,
c'est compté juste.
Hein. Il en manque. Il en manque encore. Il en manque parce que il n'est pas compté dedans. Notre séjour là-bas, la nourriture et tout cela, il n'est pas compté un peu tous les faux frais sur place de voyage, de location du
stade.
Du stade.
Ça, c'est les Africains qui prennent ça en charge.
Si on devait compter tous ces frais à notre charge, ça doublerait la somme.
Oh oui, oui, oh, facile.
Ça doublerait la somme. Oh, oui. Et mes amis, sauver les âmes, ça coûte cher, mais ça en vaut la peine. Amen. Ça en vaut la peine, au lieu de dépenser notre argent inutilement pour des bêtises qui n'en valent pas la peine.
C'est ça.
Écoutez...
Quand tout un pays est bouleversé, comme le Togo, là, je pense que ça vaut la peine.
Dans ces campagnes, tout un pays,
est
touché. Ah, je termine l'histoire d'un évangéliste qui avait à cœur d'évangéliser une certaine ville. Alors, il voulait aller dans cette ville pour évangéliser. Mais ici, il a réalisé que tout seul, il ne pourrait pas faire grand-chose. Alors, il est allé trouver un homme d'affaires. Il a dit, écoute, j'ai à cœur d'évangéliser cette ville. Tu es homme d'affaires, tu pourrais certainement m'aider. Financièrement, tu pourrais m'aider. Et l'homme d'affaires a été touché. Il a dit, oui, je veux t'aider. Pour sauver des âmes, je vais le faire. Et il était d'accord. Et après, l'évangéliste a réfléchi. Il dit, mais il faut quand même quelqu'un qui prie. Et il est allé trouver une vieille grand-mère qui était une femme de prière. Et il lui a dit, « Maman, est-ce que tu veux prier pour moi pendant que je vais faire cette mission là-bas? Est-ce que tu veux prier pour que le Seigneur sauve des âmes ?» La grand-maman a été touchée aussi. Elle a dit, « D'accord, je vais prier pour toi, pour que Dieu te donne des âmes. » Et il est parti. Sa mission a été un succès. Il y a eu 100 de conversions. Il était content. Il était content. Et ce soir-là, il a eu comme un rêve ou un songe. Et il a vu qu'il avait des étoiles sur la tête. Une couronne avec des étoiles sur la tête. Il était content. Il a dit, tiens, voilà. Comme 100 d'âmes se sont converties, certainement qu'il y a 100 d'étoiles sur ma couronne. Il a commencé à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Il a dit, Seigneur, il n'y a pas le compte. C'est 100 qui se sont convertis. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur, je ne comprends pas. 100 d'étoiles qu'il aurait fallu. Dans le songe, le Seigneur a dit, calme-toi un petit peu. Tu n'aurais pas pu sauver ses âmes si l'homme d'affaires ne t'avait pas aidé. Je lui en ai donné 30 à lui. Alors il a fait son petit calcul encore. 40 plus 30, ça fait combien? 70. Ah, il a dit, Seigneur, mais il en manque 30 encore. Et le Seigneur lui a dit, calme-toi encore, calme-toi. Tu sais cette petite grand-mère là-bas? Tu es allé là-bas, elle t'a promis qu'elle allait prier. Elle a prié fidèlement pour toi. J'en ai réservé aussi 30 pour elle. 40 plus 30 plus 30, il y avait le compte. Et l'évangéliste s'est incliné. Il a dit, c'est vrai, Seigneur. J'étais égoïste encore.
C'est vrai.
Je te demande pardon. Parce que sans ces deux personnes, je n'aurais rien pu faire. Rien pu faire. Ne pensez pas que lorsqu'on va en Afrique, on va tout ramasser, mes amis. Vous savez qu'avec David, quand il combattait, ceux qui étaient au combat et ceux qui étaient
au
bagage, ils avaient la même récompense.
Et oui, et oui.
Il y a un Seigneur qui sait bien faire le partage.
Oh, oui.
Nous allons là-bas, mais nous n'allons pas tout ramasser. S'il n'y a pas de partenaire avec nous, comment est-ce qu'on va aller là-bas? C'est impossible. Et s'il n'y a pas de personne qui prie, comment est-ce qu'on va faire? Notre mission serait un échec. Donc, on a besoin de vous, non pas pour nous-mêmes, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est pour sauver les âmes. La moisson est grande, un jour, ce sera trop tard, et la moisson risque d'être perdue. Puisse le Seigneur travailler vos cœurs aussi, pour le salut des âmes, faites quelque chose. Et un jour, écoutez-moi bien, si vous l'avez fait de tout votre cœur, des âmes vous recevront là-haut. Vous allez voir des petits Africains qui vont venir. Parce que le Seigneur, lui, il a fait son petit partage là-haut. Il lui a dit, attention, si tu es ici, parce qu'il y a eu un Canadien et une Canadienne là. Ils ont aidé l'évangéliste, là, cet évangéliste là. Ils l'ont aidé. Eh bien, c'est à cause de lui que tu es là maintenant. Et vous allez voir venir un Africain ou une Africaine et dire, merci, merci. Si je suis ici, c'est à cause de toi. Vous allez dire, mais comment? Moi, je n'ai pas le temps. Mais si, quand tu as aidé tel ministère, tel évangéliste, eh bien... Le Seigneur a fait le partage. puissiez-vous avoir la visite de beaucoup d'âmes au ciel. Puissiez-vous avoir cette visite, que beaucoup viennent vous voir et dire, tu as donné, tu as prié, tu auras ta récompense, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et que jamais nous soyons là-haut, attendant que quelqu'un vienne nous dire merci, et qu'il n'y ait personne. Il y avait ce beau cantique dans le temps, « Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel, et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel ?» Ne soyons jamais de cette personne, ces personnes-là. Que dans les tabernacles célestes, vous soyez accueillis par des hommes et des femmes qui ont été sauvés par votre moyen lorsque vous avez aidé un évangéliste ou un ministère qui sauve des âmes. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Ne soyons pas paresseux. Nous avons tous notre part. Si on fait tous notre part, la moisson sera gardée, conservée et sauvée. Amen.
Amen.
Et un jour, chacun d'entre nous, nous aurons des comptes à rendre. S'il vous plaît, réfléchissez à tout cela. C'est pour le salut des âmes. Ce n'est jamais pour nous. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout. Nous n'avons besoin de rien. Mais les autres ont besoin de vous. Les autres ont besoin de vous. Et même un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Mais les autres ont besoin de vous. Ne dites pas que vous ne pouvez pas donner. C'est un mensonge.
Ben oui.
Cet argument ne tiendra pas là-haut.
Du tout.
Parce qu'il dit donne et il te sera donné. Et on versera dans ton sein une mesure serrée, secouée qui déborde. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et que nous soyons tous, avant que la nuit vienne, où personne ne pourra travailler, que nous soyons tous ces missionnaires. Et travaillons là où les âmes sont là assoiffées. Actuellement, c'est vraiment l'Afrique. On peut y aller. Il faut faire l'effort avant que la tempête vienne et que tout soit perdu. Que le Seigneur trouve en nous ses cœurs pleins de compassion. Et un jour, il vous accordera cette récompense. Et vous n'aurez jamais à regretter tout ce que vous avez fait. Au contraire, vous regretterez de ne pas avoir fait plus pour le Seigneur et pour les âmes qui se perdent. Là, vous allez le regretter, mais ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Abandonnons cet égoïsme où l'on vit que pour nous-mêmes et on est toujours insatisfait en plus. Pensons aux autres. Oublie-toi toi-même et Dieu ne t'oubliera jamais.
C'est vrai.
Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et l'âme bienfaisante sera elle-même rassasiée. Puissions-nous être dans cet esprit-là. Car la nuit vient, je le répète, où personne ne pourra travailler. À ce moment-là, il ne faudra pas pleurnicher et dire, Seigneur, je voudrais bien faire. C'est trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut répondre à son appel. Puissions-nous tous répondre à cause des âmes qui nous attendent.
Et qui se perdent.
Qui nous attendent et qui se perdent. Que Dieu vous bénisse et nous donne de réaliser notre responsabilité devant lui. Et aussi des privilèges si nous savons obéir et faire ce qu'il nous demande. Amen.
Et le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour vous. Il m'a dit de vous dire que l'œuvre compassion n'est pas notre œuvre à nous deux. Ce n'est pas votre œuvre. C'est la mienne, dit le Seigneur. C'est la mienne. La preuve, c'est que j'ai commencé à agir au Togo avant que vous ne veniez. C'est mon œuvre, compassion est mon œuvre. Et le Seigneur l'utilise depuis des années à bénir une multitude. Et il m'a dit, dis-leur que c'est un grand honneur qu'il vous accorde, chrétiens canadiens, de vous engager dans l'œuvre compassion. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la nôtre.
Bien sûr, il y a d'autres œuvres, naturellement.
Bien sûr, mais bon.
Mais si le Seigneur vous met à cœur de travailler
voilà,
avec nous,
voilà.
C'est avec plaisir
voilà.
Que nous cheminerons ensemble.
Voilà.
et qu'ensemble,
vous serez une bénédiction
sur le champ de mission
à une multitude
pour aller sauver des âmes.
Ah,
que
oui.
Dieu vous bénisse.
Oui.
Amen. Restons dans la prière quelques instants.
Amen, amen.
Le Seigneur va continuer d'agir.
Oui, maintenant. Il va continuer d'agir maintenant.
Alléluia.
Le Seigneur m'a donné une parole pour un pasteur qui est ici, pour un serviteur de Dieu. Et voici ce qu'il vous dit. Mon serviteur, que ta prédication ne repose jamais sur l'erreur, ni sur aucun motif impur ou personnel. Parle non pour plaire aux hommes, mais en ne craignant qu'une seule chose, me déplaire. Garde-toi aussi de toute parole flatteuse et efforce-toi à rechercher ma gloire et non la gloire qui vient des hommes, te dit le Seigneur. Et un autre serviteur encore, qui est là présent au milieu de nous. Puisses-tu, mon serviteur, être empreint de mon caractère, de ma douceur, et continuer de donner ta vie pour ceux que je te confie. Puisses-tu avoir une conduite irréprochable, afin d'être un vase d'honneur pour moi, te dit le Seigneur. N'oublie pas aussi de veiller à ta famille, à leur épanouissement, à leur harmonie. Et je ferai de toi mon ambassadeur partout où je t'enverrai. Te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Courbons-nous dans la prière.
Alléluia.
Car le Seigneur va agir, va confirmer sa parole au milieu de nous. Il va toucher quelques malades, quelques infirmités au milieu de nous. Car il envoya sa parole et c'est sa parole qui guérit.
Amen.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur touche maintenant quelqu'un qui a le diabète et te dit, je vais régulariser ton taux de sucre dans ton sang. Et comme toi, tu ne peux pas contrôler ton taux de sucre, je vais moi m'en charger, te dit le Seigneur. Et tout cela va se faire graduellement. Je t'appelle aussi, toi qui as le diabète, à rééquilibrer ton alimentation en éloignant de ton organisme tout excès de sucre. C'est ce que le Seigneur te dit. Mais il te touche et il vient t'aider avec ce problème. Alléluia, Seigneur, je te bénis pour cette personne que tu touches maintenant. C'est un miracle cela aussi. Merci Seigneur pour ce que tu accordes à cette personne. Jésus, prends cette guérison, reçois-la. Merci et dis merci Seigneur. Et le Seigneur touche maintenant quelqu'un qui a une tache au poumon à cause des nombreuses années de tabac, de nicotine. Le Seigneur purifie tes poumons maintenant. Tu as parfois même une gêne dans ta respiration. Et le Seigneur maintenant dégage tes poumons de cette sorte d'asthme qui t'empêche de bien respirer. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet asthme,
merci,
ces poumons gorgés que tu dégorges, que tu libères. Alléluia. Et Seigneur, merci d'enlever tout ce qui est venu encrasser ses poumons. Alléluia.
Alléluia.
Seigneur, merci. Louange à toi, Seigneur. Et le Seigneur veut toucher quelqu'un aussi. Maintenant, touche quelqu'un qui a des battements de cœur trop rapides. Tu as une pression, une douleur dans la poitrine en ce moment, et cette douleur s'en va à l'instant.
Amen.
Et c'est ainsi que tu sais que le Seigneur t'a touché. Il m'a touché. Il y a un chant qui dit, il m'a touché.
Amen.
Jésus m'a touché. Eh bien, laisse-le te toucher.
Amen.
Et reçois. Reçois cette guérison que Dieu veut te donner. Au milieu de nous, il y a une personne qui souffre de sorte de crise d'épilepsie. Là aussi, à partir d'aujourd'hui, ces crises cesseront. et tu sauras que ce soir, le 24 septembre 2007, Jésus t'a touché. Oh, alléluia! Oh, alléluia, Seigneur! Alléluia, Jésus! Alléluia, Jésus! Le Seigneur touche encore un genou qui est souffrant dans le cartilage et rongé. Tu souffres d'arthrose et maintenant la main du Seigneur se pose sur ton genou et la douleur s'en va maintenant. Alléluia.
Merci,
parce que
Seigneur.
Jésus t'a touché. Il t'a touché. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur touche une colonne vertébrale au milieu de nous. Et je vais me glorifier au travers de cet attouchement. Reçois cette guérison. Reçois cet attouchement de la part du Seigneur. Que, ce qui est abîmé ou déplacé dans cette colonne soit remis en place. Par la puissance de Jésus le ressuscité,
Alléluia.
Le vivant. Alléluia! Alléluia, Jésus,
amen,
cette
amen.
Colonne.
Alléluia.
Que tu rectifies. Puisque tu nous as créés, tu es bien capable de remettre les choses en place. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur.
Amen.
Et encore une dernière guérison. Quelqu'un qui a une douleur dans le coude droit. Et le Seigneur enlève aussi ce problème ici, dans le coude droit. Alléluia,
Alléluia.
Reçois l'attouchement du
merci, Seigneur.
Seigneur. Oh, merci Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as touchées et que tu touches maintenant. Alléluia,
merci Seigneur.
Seigneur.
Amen.
Alléluia, tu es
merci,
celui
Seigneur.
Qui fait des grâces, qui donne des grâces, parce
Alléluia.
Que tu es miséricordieux
merci.
Et compatissant.
Alléluia.
Et tu ne nous rends pas selon nos désobéissances et nos infidélités, parce que
Alléluia.
Tu es bon. Et j'aimerais qu'on chante, Dieu m'a touché.
Gloire à toi,
il m'a touché.
Alléluia.
Et nous pouvons nous lever quelques instants quand même,
pour terminer
par ce chant.
Alléluia. Gloire à toi, santé.
Oui, amen, alléluia.
Quelque chose du Seigneur.
Quelque chose, une douleur qui a disparu, alléluia. Quelque part. Alléluia. 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 Alléluia.
Expérimenter quelque chose.
Alléluia, Jésus.
Donnez gloire au Seigneur.
Oh,
alléluia.
Alléluia.
Seigneur est agi.
Oh, merci, le Seigneur alléluia. A touché.
Merci,
Seigneur. A touché. Oui, qu'est-ce qu'il y a là?
Je sais qu'il a travaillé en moi. Mais quand tu as parlé au niveau de l'asthme.
De l'asthme?
Oui.
Oui, voilà. Oui.
On était des fumeurs.
Oui. Voilà.
On se prophétise qu'on est des non-fumeurs maintenant.
Amen.
Je l'ai pris pour moi.
Amen.
Amen, Seigneur. Amen. L'asthme. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Ta parole est la vérité.
Croyez.
La preuve, c'est qu'il s'est manifesté.
Amen.
Alléluia. Croyons.
Il y en a d'autres, certainement.
Amen, certainement.
Oui,
oui. Oui, oui. Le coude. Alléluia.
Yes.
Alléluia. Le coude. Alléluia. Gloire à Jésus. À lui la gloire. Il est merveilleux.
Donnez la gloire.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus.
Merci, Seigneur.
Amen.
Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta gloire, Père éternel. Toi seul est digne. Toute louange à toi au siècle des siècles, Père éternel.
Ne soyons pas ingrats. Engageons-nous avec le Seigneur. Pour le Seigneur. Pour son œuvre. C'est un privilège. C'est un grand honneur que de servir Dieu. C'est le plus grand privilège de votre vie. Que le Seigneur vous offre. Oui, 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 oui.
Est-ce que je peux faire un petit témoignage pour vous?
Oui, oui, vas-y.
Ces gens-là, c'est des amis à moi. Et puis, ces gens-là, le Seigneur, il les a donné un don d'aide. Ils vont partout dans les églises, rénover les églises. Et puis, puis là, il avait à cœur de venir rénover chez nous. Et puis, de peinturer et tout ça. Ils sont venus pour aider. Puis j'ai eu une parole, je les ai appelés, j'ai dit, il faut que vous soyez là ce soir.
Amen.
Je sais que vous allez avoir quelque chose. Puis ils étaient supposés de venir seulement demain, mais ils sont venus ce soir, puis ils ont reçu.
On ne pouvait pas venir, en réalité.
C'est vrai.
Parce que j'ai hésité, parce que ma femme m'a tombé dans les mains, le petit gars. Puis deux fois. Puis là, j'ai dit, oh, je ne peux pas y aller, j'ai trop peur. Que... Parce qu'elle tombe, elle se blesse partout.
Bien sûr, bien sûr.
Ben, je voulais pas, j'hésitais, puis j'ai attendu. Puis là, elle m'a dit, oh, on va y aller. Puis quand vous avez parlé de ce prophétie-là, moi, là, c'est... Oh.
Moi, comme on dit, quand vous avez dit ça...
Oui, dites-moi.
J'ai senti comme... Elle parlait comme une camisole.
Comme?
Une camisole.
Une camisole. Elle a senti comme une camisole qui faisait sur elle.
Qui est parti.
Il y a quelque chose qui est parti?
Une camisole.
Une camisole qui est partie, c'est ça?
Comme un fardeau.
Comme un fardeau. Alléluia! Alléluia!